Bien, ben écoutez, ravi de faire une conférence. Je dois reconnaître que par an, je fais en moyenne 24 conférences et depuis un an, une conférence. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile de parler dans ce pays pour des raisons sanitaires, etc. On va en parler tout à l'heure. Le sujet de la conférence que vous avez retenu est un sujet extrêmement difficile et délicat à traiter. Parce que vous m'avez demandé de vous expliquer en quoi la Vendée est une mécanique matricielle du totalitarisme que nous sommes à l'heure actuelle en train de voir se mettre en œuvre dans une addition de pays, je dirais presque sur l'ensemble de la Terre. Alors, si vous permettez, je vais décomposer ma conférence en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer en quoi la Vendée est la matrice du totalitarisme, comment il s'est mis en œuvre, quelles ont été les conséquences à court, moyen et long terme, et c'est celle que nous subissons à l'heure actuelle. Cette idée du totalitarisme, c'est-à-dire de la négation de Dieu, en fait, c'est ça, pour le pouvoir humain concentré dans une extrême petite minorité qui va imposer sa loi à tout le monde, quelle que soit la forme du système politique, démocratie, totalitarisme, etc. Foi et raison, c'est un sacré débat qui a commencé à émerger et à se traduire d'une manière extrêmement violente au XIIIe siècle. C'est saint Thomas d'Aquin, ce débat qui va se traduire par un super mai 68 à Paris et ça va même générer des combats de rue qui vont entraîner même des assassinats. Foi et raison. Et petit à petit, ce débat va évoluer et va se traduire, se transférer de la philosophie au politique. Et ça donne ben, le XVIe siècle. Avec l'émergence de ce qu'on appelle l'humanisme. Et je pense d'ailleurs que le fondement même de la Révolution, c'est le XVIe siècle, c'est la Renaissance. Et en fait, le moteur de cette Révolution, je vais peut-être vous choquer, c'est François Ier. Et on va cancériser, en fait, toute une philosophie et je dirais tout un système de reproduction de l'État monarchique. Et ensuite, ça va se traduire par la mise en œuvre par un certain nombre d'auteurs, des philosophes. C'est tout le débat qui commence à émerger fin XVIIe siècle et qui va s'épanouir au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle le siècle des Lumières. De ce débat va émerger deux grandes idées. Première idée, le relativisme. Et dans le cadre de ce relativisme, et je reprends votre sermon, eh bien, Dieu devient accessoire et l'homme devient premier. Et après, c'est l'organisation humaine du système. Et en fait, ça va être tout ce débat qu'il va y avoir entre la monarchie absolue et cette idée de démocratie. Alors, on part toujours de cette idée que c'est lié au hasard, c'est lié aux circonstances, c'est lié aux événements, et qu'en fait, ceux qui ont commencé à être là au début de la Révolution ne pensaient pas la Révolution telle qu'elle allait devenir, et que c'est vraiment une addition de circonstances qui a fait qu'on est arrivé au totalitarisme révolutionnaire. Je ne partage pas cette opinion, mais absolument pas. Parce que très tôt, ce que ont écrit un certain nombre de philosophes, notamment Rousseau et Voltaire, vont se traduire par une violence intellectuelle incroyable au sein du royaume de France, notamment, et on n'en parle pas suffisamment, par le biais de la franc-maçonnerie. Deuxièmement, et c'est quelque chose qui est fondamental, les salons. On ne parle pas des salons. Et en fait, il y a des salons un peu partout en France, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel féminins. Et en fait, dans le cadre de ces salons, les idées vont buissonner, etc. Tant et si bien que lorsque Louis XVI arrive sur le trône, le débat est tellement abouti que lorsque Louis XVI énonce l'idée qu'il faut qu'il se fasse sacré, le haut clergé et même ses proches lui disent que c'est une absurdité, que c'est une vieillerie, que cela n'a plus de sens, etc. Et Louis XVI va imposer le sacre malgré et envers tout le monde. Vous voyez, déjà ça commence. Le sermon de l'évêque qui l'a sacré est tellement scandaleux qu'on va, le roi va interdire l'impression. On n'a pas le contenu de ce sermon, mais on sait qu'il était scandaleux parce qu'il niait le caractère divin du sacre de Louis XVI. Et lorsqu'on fouille dans les écrits de Louis XVI, et notamment ceux qu'il fait vis-à-vis par rapport à son beau-frère, l'empereur d'Autriche, Louis XVI a parfaitement compris la crise philosophique et politique du royaume, que traverse le royaume, et il sait pertinemment qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation, et dès le début de la Révolution, il sait qu'il a perdu, et il l'écrit à son beau-frère. Alors vous me direz, mais c'est incroyable. Parce qu'on présente toujours Louis XVI comme un petit bonhomme d'1m60, rondouillard, imbécile, etc. Louis XVI est tout sauf cela. C'est un grand homme. Quand je dis sa taille, les gens sont toujours surpris parce que la manipulation est telle qu'on ne peut pas imaginer que la tricherie puisse aller jusque-là. 1m92, 90. C'est un homme d'une intelligence incroyable. C'est un scientifique, donc un rationaliste. Et il a parfaitement compris la situation. Et en même temps, c'est un homme spirituel, d'ailleurs comme son épouse. Et ils vont le démontrer par la suite avec force et courage. Alors vous me direz, on est loin de notre sujet. Non, pas du tout. On est sur la base de ce qui va se passer avec la Révolution française. Je ne partage pas l'opinion de ceux qui disent qu'il y a eu un dérapage et que c'est la force des événements qui ont fait le caractère de la Révolution. Je pense que cette Révolution n'est pas double, mais c'est Clémenceau qui a raison, que la Révolution est réellement un bloc. Et ce bloc commence à se mettre en place, non pas en 90, 91 ou 92, mais dès 1788. Et d'ailleurs, Rennes est une des places où cette mise en œuvre a commencé avec le fameux combat qu'il y a eu place du Parlement. Il y a deux choses qui sont parfaitement pensées, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre en raison des mentalités. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les révolutionnaires. La première chose, c'est la nature profonde du caractère politique de la France et de son système politique. Et la deuxième chose, c'est que le peuple de France, excusez-moi, les peuples de France sont des chrétiens. La monarchie française, c'est tout le débat de Jeanne d'Arc, etc. Il faut, Jeanne d'Arc est clé pour comprendre cela. Il y a une thèse qui va être publiée dans quelques semaines au CERF, que je vous conseille de lire, de l'abbé Olivier sur Jeanne d'Arc. Il explique très bien le caractère, la nature de ce qu'a fait Jeanne d'Arc pour rétablir la monarchie française. Et notamment le caractère divin de son action. Et donc, comment briser ce caractère profond de la monarchie française? Eh bien, pour les contre-révolutionnaires, il n'y a qu'une solution, et vous allez voir comme c'est moderne. Fracasser, diviser. Je répète, fracasser, diviser. Et diviser dans l'opposition, faire en sorte que cette union vole en éclats et que les blocs vont s'opposer. Fracasser. Fracasser, c'est que vous avez un système monolithique, millénaire, de nature religieuse. Cette nature religieuse s'enracine dans le sacre de Clovis. C'est Clovis, le baptême de Clovis, qui fait la nature profonde de la monarchie française et donc des peuples de France. Le roi de France est le premier lieu tenant du roi, de Dieu. C'est l'assise même, la nature profonde de son pouvoir. Et deuxième chose, c'est que le roi, en étant le premier lieutenant de Dieu sur terre, est lui-même sacré, donc intouchable, donc inviolable. Et donc, les révolutionnaires se disent, il faut briser la nature profonde du peuple de France, de la monarchie française, et il faut fracasser les gens en éliminant non seulement le pouvoir du roi, mais le roi lui-même et tout ce qu'il représente. Je répète, Louis XVI est parfaitement conscient de ce qui se passe, il est parfaitement conscient des enjeux. Alors vous me direz, mais pourquoi il n'a pas résisté? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que c'est un système. Alors, comment casser le pouvoir religieux de la France? Eh bien, en faisant trois choses. Un, en nationalisant les biens du clergé, on ruine le clergé et on le rend dépendant du pouvoir politique. La nationalisation des biens du clergé n'a que cette finalité. Le reste, c'est de l'habillage. On a besoin de garanties, on a besoin de biens pour le budget de l'État. Tout ça, c'est de l'habillage. Et la deuxième chose, on demande au clergé de prêter le serment constitutionnel. Et ce serment constitutionnel a deux objets. Un, briser le lien qu'il y a entre le clergé de France et la papauté. Et deuxième finalité, créer un système de féodalisation entre le pouvoir politique et le clergé, qui est la seule force de résistance organisée qui pense face à la Révolution. Ce qui est incroyable, c'est que on pensait la chose impossible, comme en 1905, pour les mêmes raisons d'ailleurs, eh bien c'est que cela va marcher. Et qu'il y a eu, nous sommes une exception à l'Ouest, très peu de hauts prélats, et même au Vatican, ça a été tardif la réaction, avoir compris ce qui se passait, et dès le début, non seulement de dénoncer le système, cette mécanique qui allait se mettre en place, mais aussi de faire de la résistance locale. C'est beaucoup plus tardif. En fait, la résistance commence en 93, alors que dès novembre 90, elle aurait dû être totale, immédiate et absolue. La deuxième chose que l'on va faire, c'est pas briser le pouvoir du roi, c'est d'éliminer le roi, d'éliminer la monarchie. Et en fait, le jour où le roi accepte la réunion des États généraux, il lance la mécanique de la révolution et il ne l'a compris que beaucoup trop tard. Puis après, vous connaissez le serment constitutionnel, etc. Mais c'est fini, c'est trop tard. Bien. La franc-maçonnerie et les salons ont œuvré, notamment à travers les grandes villes. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de salons qu'il peut y avoir dans la cité. Rien qu'à Rennes, il y en a entre 20 et 30. Vous vous rendez compte de l'écho que ça a. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'on a lancé la mécanique, eh bien on arrive au 10 août avec l'attaque des Tuileries, et puis on arrive au 20 septembre. Lorsque le roi est déchu et la République proclamée, on va déconstruire, j'utilise un mot moderne, exprès, 1500 ans d'histoire. Je suis en train de faire un livre là-dessus. C'est-à-dire que non seulement on va éliminer physiquement le roi, mais on va vouloir éliminer physiquement toute la famille royale. Non seulement on va vouloir gommer l'histoire, C'est exactement ce qu'on fait de nos jours. Mais on va faire en sorte qu'elle ne puisse plus être. Alors vous me direz, ça veut dire quoi? On tue Louis XVI, on tue Marie-Antoinette, on tue l'enfant roi, mais en même temps, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces des choses. C'est le reset, on en parlait à table tout à l'heure. Alors vous me direz, mais ça veut dire quoi? Eh bien, on va éliminer l'existence matérielle, physique de la monarchie. Et je vais vous prendre quelques exemples. Eh bien, par exemple, on va détruire le cimetière royal. On va arracher les corps morts des tombes. Vous voyez ce que je veux dire? On arrache. On a cette scène. On va éliminer tout le caractère sacré. C'est la fameuse ampoule du Saint-Crème qui va être brisée et écrasée par Réum. On va éliminer tous les symboles en les frappant, comme l'on dit. Et on va aller jusque loin, on a même créé des crimes nouveaux comme le crime de ressemblance. Alors vous me direz, ça veut dire quoi? Eh bien, toute personne qui ressemble au roi ou à la reine doit être éliminée. Vous voyez, on arrache, on élimine, on recrée. Bien. Et puis, bien entendu, on élimine le système. Système d'ordre, puis tout le reste, vous le connaissez. Donc, on déconstruit et on élimine, on fait disparaître. C'est ce que j'appelle le mémoricide. Bien. Et ensuite, on va imposer, c'est-à-dire on fracasse, on élimine, par la force, un ordre nouveau, l'ordre républicain. Liberté, égalité, fraternité. Il y a deux jours, sur CNews, vous avez eu un débat entre Philippe de Villiers et Éric Zemmour. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était passionnant, d'ailleurs de même nature que ce qui s'était passé une semaine auparavant, entre Onfray et Zemmour. Vous pouvez voir ça par replay. Et donc, qu'est-ce que dit Zemmour? Il dit, en fait, à l'heure actuelle, nous vivons une situation à la Vendéenne. En fait, les Français sont devenus, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réflexion, des Vendéens. C'est ça que je vais vous expliquer. Lorsque le nouveau système se met en place, que j'appellerais en terminologie moderne, le local reset, parce que c'est la même chose. Vous avez au niveau du comportement que trois possibilités, d'ailleurs qui se traduisent politiquement. Les Jacobins, le Marais et les Girondins. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Premier groupe, ce sont les Jacobins qui vont imposer la révolution coûte que coûte, une et indivisible. Le slogan, c'est « la liberté ou la mort ». Le Marais, ce sont les indifférents, ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne pensent qu'à être ce que l'on veut qu'ils soient. C'est le Marais. Et puis la troisième catégorie, ceux qui s'arrêtent, qui regardent, qui analysent et qui disent non. C'est votre groupe, par exemple, qui disent non. Et qui disent non en se disant, au-delà de dire non, on va prendre les moyens adéquats pour traduire notre négation par une lutte qui puisse faire que l'on soit. C'est clair ce que je viens de dire? Au niveau des révolutionnaires, ceux qui veulent créer le RICERT. La liberté ou la mort. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a que deux solutions. Soit on se convertit naturellement ou on accepte la conversion, soit on s'oppose. Alors comment peut-on faire accepter cette révolution, même si on n'y adhère pas? Eh bien, c'est la peur. On fait peur aux gens en disant, si, vous voyez que c'est très moderne, c'est très actuel, très contemporain, si vous ne faites pas ce que l'on veut que vous fassiez pour que vous soyez ce que l'on veut que vous soyez, eh bien, vous allez vous soumettre. Et on va trouver des arguments en disant, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, si tu es contre moi, on t'élimine. À l'heure actuelle, c'est, tu ne te fais pas vacciner, donc tu vas contre l'intérêt général et tu peux être la cause de la contamination. Et non seulement tu peux être la cause de la contamination, c'est-à-dire tu peux faire mourir des gens, mais toi-même tu prends le risque de mourir. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est la forme qui change, mais le fond est le même. Donc, en gros, il y a Jean-Pierre Leroc, le fondateur des Mousquetaires, qui disait qu'il y a trois catégories de Français, et qu'on retrouve partout. Un tiers de gens qui sont pour la Révolution, un tiers qui ne pense rien et qui va adhérer à tel ou tel courant, parce que, en raison des circonstances, il faut le faire. Et puis le troisième tiers, qui lui pense et qui va réorienter les choses. Alors on peut ne pas être d'accord avec le tiers, je ne sais pas si ça se vérifie dans toutes les situations, mais en tout cas, le schéma général est juste. Et je pense d'ailleurs que la Révolution française, c'est l'histoire d'une extrême petite minorité comme la Révolution soviétique, comme la Révolution hitlérienne, comme la Révolution mussolinienne, maoïste, etc. Et d'ailleurs, comme à l'heure actuelle, c'est une extrême petite minorité qui agit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, on nous a expliqué qu'au sommet de l'État, on avait un homme génial qui, en travaillant sur ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du vaccin, c'était devenu le meilleur spécialiste au monde. Et que tout le monde autour de lui admirait cette capacité qu'il avait eue en quelques mois à surpasser les médecins qui avaient travaillé sur les problèmes de transmission des virus et qu'il avait des leçons à donner à tout le monde. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ceausescu, Hitler, Mao, etc. C'est exactement la même chose. La sacralisation de l'homme premier. Et derrière, nous avons autour de Ceausescu, on appelait ça les pingouins, les gens qui applaudissent. Donc, vous avez cette idée qu'on a la vérité et on va l'imposer à l'autre pour changer totalement la nature du système et la vie politique. Le Marais, n'en parlons pas. Et puis, il y a ceux qui disent, nous, on n'est pas d'accord, pour des raisons objectives et pour la liberté, pour la liberté, pour le droit à la différence, pour le droit de penser autrement. Et en fait, les Vendéens d'hier comme les Vendéens d'aujourd'hui, ce ne sont justement pas des conservateurs. Ce sont des gens incroyablement modernes et qui ont conscience et qui se battent pour cette liberté. En fait, je dirais presque, ça va vous sembler choquant, ceux qui défendent la liberté en étant contre la révolution, ce sont justement les réactionnaires, ceux qui veulent que l'on pense différemment. Alors, lorsque le système est confisqué par une petite minorité qui veut imposer unilatéralement une pensée unique, eh bien, il faut empêcher l'autre d'être. Ce qui est passionnant avec la Vendée, et c'est pour ça que c'est une matrice, comme à l'heure actuelle, tout ce qui a été fait vis-à-vis des Vendéens est légal. Alors vous me direz, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la loi? La loi, c'est l'expression de la souveraineté populaire qui se traduit par l'élection d'une minorité qui va voter des textes d'intérêt général qui s'imposent à tous et qui va prendre les moyens adéquats pour les imposer. C'est ça, la loi. Celui qui dit « je ne suis pas d'accord », il devient hors la loi. Je prends un exemple, à l'heure actuelle, on nous dit, je ne suis pas sûr que ça soit légal d'ailleurs, mais qu'importe, il faut porter un masque. Celui qui ne porte pas un masque, comme ça m'est arrivé dans mon petit village, je me fais arrêter par le policier municipal qui me dit « Monsieur, votre masque ». Moi, je dis « je ne porte pas de masque parce que je suis à l'air libre et je suis tout seul ». Il me dit « mais monsieur, c'est la loi, vous devez porter un masque ». C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Mais la loi nous impose de porter un masque, y compris si vous êtes seul au sein de la forêt rennaise. Bien. C'est la loi. Et l'homme de loi va vous imposer cette loi. Soit vous dites « je ne suis pas d'accord », vous avez un premier PV, et puis si vous faites reprendre, vous allez avoir un PV plus fort, puis si vous faites reprendre, vous vous retrouvez en prison. C'est arrivé. Bien. Pour dire, la mécanique, c'est un système totalitaire. Vous ne pouvez pas y échapper. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit votre volonté, le système, il est là. Donc il y a la révolution, et c'est pour ça que c'est une matrice, la Vendée. C'est que lorsque les Vendéens disent non, nous sommes pour la liberté. Le comité de salut public va se réunir en se disant, ces gens-là ne veulent pas penser comme on veut qu'ils pensent, eh bien, il faut les punir. Mais au-delà de la punition, comme on ne pourra pas les régénérer, c'est-à-dire les soumettre à la loi, eh bien, il faut les éliminer. Les éliminer. Parce qu'ils ne pourront jamais accepter d'être ce que l'on veut qu'ils soient. Ce qui est fascinant pour la Vendée, c'est toute la mécanique à la fois intellectuelle, idéologique, politique et militaire pour arriver à ce résultat. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'idée que ces gens-là ne peuvent pas être régénérés, c'est-à-dire au moins de se mettre en position de marais, au-delà d'être des militants. Il faut les faire disparaître de la surface de la Terre. Ça vous rappelle quelque chose, ce qu'on dit en ce moment. Et comme on est dans un cadre légal, on va mettre en œuvre une politique légale d'élimination de ces gens. Mais pour arriver à mettre en œuvre ce système d'élimination systématique, il faut obligatoirement passer par une étape, parce que l'homme ne peut pas éliminer l'homme. Parce que, justement, il est homme, eh bien, il faut l'animaliser. C'est-à-dire que il faut expliquer à celui qui va être chargé de l'élimination, mais au simple spectateur qui ne veut pas participer à cette élimination, que ce n'est que justice d'éliminer ces gens qui sont devenus indésirables et dangereux pour le bien commun, pour la collectivité. Alors l'animalisation, ça peut prendre diverses formes. Et vous allez voir que c'est très actuel. D'abord, expliquer à qui veut l'entendre que celui qui n'accepte pas la règle générale, il se met en opposition. Et le seul fait de se mettre en opposition, dans la mesure où il peut être contaminant, eh bien, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas contaminant. Vous voyez que c'est très moderne, tout ça. C'est de l'ordre de la médecine. C'est-à-dire que le discours des révolutionnaires de 1792, c'est exactement le même discours que nous avons à l'heure actuelle, sauf que le virus, à l'heure actuelle, est un virus humain, alors que le virus de l'époque est un virus spirituel, intellectuel. Bien. Donc, il faut l'éliminer. Eh bien, ça donne quoi, à l'heure actuelle? Comment va-t-on pouvoir éliminer l'indésirable, le contaminant? Eh bien, le passeport vaccinal. Vous vous rendez compte de ce que c'est le passeport vaccinal? Si vous pensez bien, si vous êtes fait vacciner, eh bien, on va vous délivrer un passeport, et avec ce passeport, vous allez pouvoir circuler librement. Vous êtes un être humain, normal. Si vous n'avez pas ce passeport, vous allez être déclassé, marginalisé, exclu. C'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aux Vendéens? On les a animalisés, puis on a dit après, on va les exterminer. Alors, comment les exterminer? Eh bien, après, c'est une mécanique d'élimination dans le cadre d'un génocide. La question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, dans notre civilisation avancée, comment peut-on éliminer les gens qui vont refuser le passeport vaccinal? On les cantonne, mais ça ne va pas être suffisant. Parce que jusqu'au bout, on va essayer de les convertir. Et après, on va faire quoi? Eh bien, c'est une question que je soulève. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens que l'on a parqués comme des animaux, qu'on a éliminés de la vie, de toute vie sociale? Vous voyez la symétrie des choses, c'est incroyable. Et donc, comment a-t-on éliminé les Vendéens? C'est une question que l'on peut se poser à l'heure actuelle. La première chose, pour les éliminer, on les a concentrés. C'est-à-dire que tous ceux qui ne pensent pas comme il faut penser, on les prend et on va les mettre dans un lieu à l'extérieur de la société, c'est-à-dire qu'on les met en prison. On commence à faire ça dès novembre 1790 par rapport au prêtre réfractaire. Mais le prêtre réfractaire, c'est la future Vendée. Mais c'est aussi nous demain. Mais les prisons, elles se remplissent vite. Donc ensuite, on va les déporter. On va leur dire, ce pays ne peut plus vous accepter, donc on ne peut pas vous éliminer physiquement, on va vous envoyer à l'extérieur. Et donc on déporte les gens. Et puis comme les pays extérieurs disent à un moment donné, nous on a un peu trop, la seule solution c'est l'élimination. Cette idée d'élimination est une idée soulevée très tôt par les révolutionnaires. On a traité la nature humaine, je vous l'ai dit, on les a animalisés. D'ailleurs, on va être si loin que l'on va décider, dans le cadre de l'animalisation, écoutez bien ce que je vous dis, que comme ce ne sont plus des hommes, eh bien, ils ne peuvent pas avoir une personnalité morale. Et comme ils ne peuvent pas avoir une personnalité morale, eh bien, par nature, ils ne peuvent plus être propriétaires. Donc, tous leurs biens sont nationalisés. Attendez, excusez-moi, je ne parle pas de la Russie, d'Hitler, là. Je parle bien de la Vendée de 1792, 93, 94. Après, ce n'est qu'une répétition. Donc, on nationalise tous leurs biens. Et on a été si loin par rapport aux Vendéens qu'on va même arracher leur nom de département parce qu'ils n'existent plus, ils ne sont plus, pour leur donner un nouveau nom, département Vengé. Vous me direz, mais on pourrait faire ça à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut très bien demain dire, vous ne voulez pas vous faire vacciner, donc vous refusez la loi, donc on va vous éliminer, on vous met en prison, et comme vous ne voulez pas obéir, on vous prend vos biens. Vous me direz, mais ce n'est pas possible. Ah bon? Hitler l'a fait, Mussolini l'a fait, Pol Pot l'a fait, etc. Qui nous dit que demain, ça ne peut pas être possible? Puisqu'on veut qu'il y ait ce passeport vaccinal, on veut que vous soyez vaccinés, tout est possible. Il faut bien que vous en ayez conscience. Et tout ça au nom de l'intérêt général. Et puis après, reste le problème de l'élimination définitive de l'individu. Alors pour la Vendée, je tiens à le répéter, on en a 7. Peut-être que demain, ça sera notre cas. C'est de l'ordre du possible. Parce qu'il suffit de dire au peuple, il y a ces gens-là, ce sont de dangereux résistants, et puis on va stimuler la haine. Tout est possible. Ça a été le feu, ça a été le sabre, la guillotine, les noyades, l'asphyxie, ce qu'on appelle l'enfumage à l'époque, la décollation à coup de bananes, et puis ce qu'on appelle le gazage. Tout est possible demain. Absolument, tout est possible. Bien. Et ce n'est pas à l'échelle d'un pays, ce n'est pas à l'échelle d'un continent, mais ça peut être à l'échelle mondiale, au nom de l'intérêt supérieur. Alors, face à cela, peut-on résister ? C'est extrêmement difficile. Et je le vois bien, moi, ce qui se passe autour de moi. Même ceux qui étaient hostiles à la vaccination se disent « Ah, tout de même, au nom de l'intérêt général, il faut que je me dévoue. Et puis, mon fils ne veut plus m'emmener mes petits-enfants parce que je ne suis pas vacciné. » Et on stimule la pression familiale, on va jusque-là. Et on va stimuler la pression scolaire. Ça veut dire que celui qui n'est pas vacciné, on va voir ça, hein, il ne pourra pas aller à l'école. Or, la scolarisation est obligatoire. Donc, si, vous voyez la mécanique, si vous refusez de mettre votre enfant à l'école par le fait de la vaccination, c'est vous-même qui va être entraîné en prison. Vous voyez ? Tout est possible. On a, par exemple, des cas en Allemagne, déjà, etc. Et c'est pour ça que la situation dans laquelle on vit à l'heure actuelle est vraiment le prolongement, sous une autre forme, de la situation qu'on a vécue il y a 200 ans dans ce pays, mais aussi qu'on a vécue, on l'a déjà oublié, en 1848 ou en 1945. On est à l'heure actuelle dans un système d'inversion totale, absolue. Je vais vous prendre un exemple qui me sidère. C'est l'histoire de la Commune à Paris. Vous savez ce qu'ils sont, les communards. Ils se sont emparés de Paris et ils vont décider, au nom de l'idéologie communiste, de détruire l'expression de l'ancien système et d'éliminer un certain nombre de personnes. C'est ainsi qu'ils vont brûler les Tuileries, qu'ils vont abattre la colonne Vendôme, etc., qu'ils ont même voulu brûler le Louvre, brûler l'hôtel de ville. Le maire actuel socialiste de la ville de Paris rend hommage à ces gens. Vous voyez que tout est possible, absolument tout. Et ne pensez pas tout de même, il n'y a pas de limite, mais, et qu'il y a des limites. Non, il n'y en a pas. C'est un système, je répète, total. Je rappelle que certains imaginent même d'éliminer l'homme parce qu'il est homme de la surface de la Terre, parce que source de pollution. On est dans ce schéma. Ça veut dire que chacun d'entre nous est en danger. Il faut vraiment en avoir conscience. Nous sommes tous, comme disait Éric Zemmour il y a deux jours, des Vendéens. Et on a bien en face de nous un système totalitaire qui a balayé d'ailleurs tous ceux qui pensaient différemment notamment dans la gestion de la crise. Pensez au professeur Raoult, etc. Donc, entrer en résistance va devenir de plus en plus difficile et délicat. Alors vous me direz, parce que je sens la question, quelle est la solution ? Ben, de vous à moi, face à un système totalitaire de nature globale comme nous le vivons à l'heure actuelle, je n'ai pas la solution. Je ne l'ai pas. Même le pape s'est fait vacciner. Il n'a même pas sollicité l'aide de Dieu pour faire en sorte que cette maladie disparaisse. Il n'y a même pas pensé. Mais il s'est fait vacciner. Oui. Je n'ai pas la solution.